deux mots donc sur qui on est. On n'est pas une assemblée d'experts en économie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'on est des gens qui veulent prendre la parole, qui veulent oser réfléchir ensemble sur l'économie, en espérant que ça encourage d'autres gens à le faire.
Oui, c'est ça. En fait, on a discuté la fois dernière de la déréglementation, après avoir discuté précédemment du chômage, et aujourd'hui, on va essayer de voir un petit peu ce que ça signifie que cette masse d'argent qui circule dans le monde et des nuisances de la production actuelle. Alors, toutes ces questions sont des questions importantes de la crise aujourd'hui, et nous les traitons parce que ces questions nous interrogent. Nous avons des idées à ce sujet et nous essayons de les dire peut-être de manière un peu provocante, mais justement pour provoquer la réflexion chez vous, les auditeurs, et pour éventuellement instaurer un dialogue qui pourrait nous dire dans quelle mesure nous avons abordé les vrais problèmes, ceux qui importent à tout un chacun aujourd'hui, et si nous avons donné quelques éclaircissements qui peuvent provoquer la poursuite de cette réflexion. Il ne fait pas de doute que nous ne discutons pas, comme tu l'as dit, en tant qu'experts qui apportent la vérité. Nous n'apportons pas la vérité. Nous apportons des idées qui peuvent être plus ou moins justes et qui n'ont pour but que de donner des instruments à tout le monde pour que chacun s'intéresse et prenne en main ces problèmes qui nous semblent fondamentaux.
Nous sommes partis aussi d'un constat de base, c'est que dans l'ensemble, on estime que l'économie et la politique, c'est une affaire qui ne concerne pas la vie de tous les jours. Or, tout ce qui se fait au niveau du gouvernement, au niveau électoral, au niveau international, tôt ou tard, ça retombe à tous les niveaux sur les gens. Parfois, on ne s'en aperçoit pas pour la simple raison qu'une décision prise aujourd'hui par un certain gouvernement, par exemple américain ou français, n'a pas d'impact immédiat sur la vie de tous les jours. Donc, on se dit, c'est inutile de se faire des soucis à ce sujet-là. En réalité, 3, 6 mois, 1 an après, les retombées de ces décisions viennent à jour, et tout le monde s'en trouve affecté, mais alors il est beaucoup trop tard pour réagir parce que les événements sont déjà en mouvement. Et c'est trop tard de penser à des remèdes quand les solutions sont déjà pratiquement en vue, qui n'ont pas été choisies par les gens, mais qui ont été imposées 6 mois, 1 an avant, par d'autres.
Donc, ces émissions, comme vous le savez peut-être pas, sont différées. On n'est pas actuellement dans le studio, mais si vous réagissez, vous pouvez téléphoner à Radio Zone, et vous pouvez écrire, et ces réactions seront traitées dans une émission ultérieure qui, lui, pourrait être en direct. D'ailleurs, comme avec toutes les émissions de Radio Zone, si ça vous intéresse, d'avoir une copie de ces cassettes, vous n'avez qu'à vous adresser à la radio. Alors, on embarque sur le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire le rôle de l'argent et l'écologie.
Alors je crois qu'on peut faire le lien avec la fin de notre dernière émission, c'est-à-dire la question du logement, qui avait été posée par Nicolas en disant, notamment pour la région genevoise, que se passe-t-il dans ce secteur? Il se passe des folies. Il se passe des folies parce que le prix du mètre carré atteint des sommes qu'on ne peut même plus articuler, qui n'ont plus aucune réalité avec ce que représente un mètre carré de terrain.
30 000 francs.
J'en sais même rien.
80 000.
Et le mètre carré de logements habitables ou de bureaux dans lesquels on peut travailler ou d'usines n'a pas non plus de relation avec ce qu'on peut y faire comme service utile ou comme production de biens utiles et consommables. Peut-être que ce sera encore plus clair si on dit que pour l'agriculture ou pour la viticulture, des choses très concrètes, on peut estimer aujourd'hui que la rentabilité pour un agriculteur d'un mètre carré de terrain cultivé vaudrait, si on veut pouvoir payer les amortissements et les intérêts de la dette, vaudrait peut-être entre 3 et 5 francs le mètre carré. Or, il est bien évident que le mètre carré de terrain agricole est cadastré en zone agricole où on ne peut pas construire, qu'on ne peut pas dénaturer en quelque sorte, se négocie aujourd'hui à probablement 10 fois ce prix, ou même peut-être 50 fois si le terrain est bien placé. Et donc, vous voyez bien l'écart qui fait que le niveau du prix n'a plus de relation avec le produit qu'on peut réaliser avec ce qu'on achète. Ce qui crée une distorsion absolument invraisemblable, et ce qui pose d'abord la question de l'argent, pourquoi est-ce que ce prix est devenu fou? Et d'autre part, si l'argent qui circule comme ça dans les circuits économiques n'est plus relié à ce qu'on peut faire comme produit et à ce qu'on peut consommer par conséquent, qu'est-ce qui va advenir de cette production? Est-ce que cette production peut rester socialement utile, c'est-à-dire dans la direction ou dans les secteurs où on a besoin de ces produits, ou est-ce que cette production ne va pas batifoler à gauche et à droite dans des secteurs qui sont souvent indirectement utiles et souvent inutiles.
Directement nuisibles.
Directement nuisibles.
Je crois que, oui, effectivement, ces exemples que tu as donnés du logement ou de l'agriculture, ce ne sont que des exemples pour montrer que, disons, je crois que Marx aurait dit qu'il y a comme un problème entre la valeur d'usage et la valeur d'échange. C'est-à-dire que l'argent ne remplit pas son rôle de faire fonctionner les échanges et la production. Et même dans ces cas-là, même le plus capitaliste des capitalistes sont obligés d'admettre qu'on doit subventionner l'agriculture, on doit quand même, en tout cas, subventionner le logement sous forme d'HLM. C'est les régisseurs et les entrepreneurs sont les premiers à empêcher l'argent avec un sourire. Donc, ça veut dire que dans ces deux cas, l'argent ne remplit pas son rôle. Il y a quelque chose de vicieux dans l'argent tel qu'on l'utilise maintenant. Mais je crois que le problème donc, qu'il faut aborder, c'est le problème beaucoup plus général de comment fonctionne l'argent ou comment ne fonctionne pas l'argent dans notre système.
Je te signale, à titre de curiosité peut-être, que ce problème du logement, qui est un problème d'intérêt vital, car il y a 10 000, 30 000, 50 000 ans, il y avait deux problèmes dans la nature, c'était le logement et la nourriture, on en revient à ça aujourd'hui, il n'est pas exclusif à Genève. À New York, à Paris, à Londres, à Sao Paulo, au Brésil et à Tokyo, on a exactement le même problème. Je te dirais plus, à Tokyo, on ne parle même plus de mètres carrés, on parle de décimètres carrés.
De pieds carrés. Petits, les Japonais.
On parle de pieds carrés et il y a des prix épouvantables, ce qui contraint les gens à faire 3-4 heures de voyage par jour. Mais en plus de ça, cela sous-tend justement le problème de l'utilité sociale des investissements et de l'argent. Et là aussi, il faut faire une précision, c'est-à-dire dans quelle société nous vivons. Parce que l'utilité sociale des investissements dans nos sociétés post-industrielles se pose comme un problème. Alors que l'utilité des investissements dans nos sociétés qui sont encore agricoles ou dont les besoins tangibles, c'est-à-dire les besoins immédiats, ne sont pas encore satisfaits, c'est un autre problème encore. Donc il faut bien préciser qu'un certain nombre de problèmes sont typiques de nos sociétés industrielles ou post-industrielles, où pratiquement on a énormément de loisirs, on a énormément de temps libre, on a énormément de facilité, de biens de consommation à écouler, etc. Et met en évidence certains problèmes qui nous sont typiques. Il ne faut pas parler des mêmes problèmes en Afrique noire, il ne faut pas parler des mêmes problèmes en Amérique latine. Il faut bien se rendre compte qu'on a des problèmes à nous ici parce qu'on a une société qui est particulièrement développée.
Mais je crois que justement le fait qu'on est dans une société particulièrement développée est peut-être une bonne chose dans le sens qu'on arrive à voir, nous, les absurdités où mène l'argent tel qu'il fonctionne maintenant. Parce que la Suisse est un pays qui est toujours plus riche et pourtant les gens peuvent se payer de moins en moins de places, par exemple, pour habiter. Ça me frappe toujours. Si on regarde les premiers HLM des années 20 ou 30, il y a des énormes jardins autour. Et puis maintenant, ils sont tous construits en hauteur parce que la société suisse, qui est si riche, qui devient toujours plus riche, eh bien, ils peuvent se payer de moins en moins de places pour habiter. C'est quand même étonnant.
L'argent, donc, devrait être un indicateur des besoins et des coûts notamment en travail ou en utilisation de la terre ou pollution de la terre. C'est, disons, on a besoin d'un indicateur de ce qu'on a besoin et de ce que les choses nous coûtent. Et on s'aperçoit que l'argent ne joue pas du tout ce rôle, ou même il fait le contraire. Et moi, j'aimerais bien donner un exemple qui me tient à cœur, c'est que quand on pense au travail, je trouve que l'argent, c'est un moyen extraordinaire de faire aux gens des choses qui ne les intéressent pas et qui sont inutiles, voire nuisibles. Quoi. Je veux dire, je ne sais pas quelle proportion des gens font des choses qui ne les intéressent pas à cause de l'argent, c'est-à-dire pour gagner leur vie, alors qu'ils pourraient faire des choses utiles socialement. Et je pense qu'il y a, vraiment donc un immense problème de l'argent.
En fait, pour simplifier énormément l'affaire, l'argent, c'est quoi ? C'est le moyen pour quelqu'un qui veut réaliser un produit d'acheter le matériel qu'il lui faut, les matières premières qu'il lui faut et la main-d'œuvre qu'il lui faut pour réaliser ce produit. Le produit réalisé, il le vend s'il a bien travaillé et si son produit répond à un besoin, il arrive à le vendre. Et par conséquent, il arrive à récupérer l'argent qu'il avait investi au départ du cycle productif. Et avec cet argent récupéré, il peut recommencer un deuxième cycle. En simplifiant, c'est ça l'argent. Pour le producteur, pour le consommateur, l'argent, c'est le salaire qu'il aura eu dans son travail et qui lui permet d'acheter les produits qui lui sont nécessaires pour vivre. Or, que se passe-t-il depuis, disons, depuis la Deuxième Guerre mondiale ? Il se passe que le crédit a pris une fonction tout à fait essentielle dans les circuits financiers. Alors, bien évidemment, le crédit ne date pas d'aujourd'hui, il ne date pas du XXe siècle. Il remonte à la nuit des temps, puisqu'on en parle dans la Bible, et j'imagine que dans la Chine, le crédit devait exister également. Donc, ça n'est pas une chose nouvelle. Ce qui est peut-être nouveau dans la période moderne et industrielle de nos pays, c'est que le crédit a pris une importance telle qu'on peut aujourd'hui voir circuler de l'argent qui n'est plus en relation directe, en tout cas, avec une activité productive ou une activité de consommation. Et qu'il se passe des transactions quotidiennes de spéculation et de placement d'argent sur les places financières qui sont de l'ordre de 2 à 300 milliards de dollars, donc quotidiennement, de l'argent qui change de main. 2 à 300 milliards de dollars, vous voyez à peu près que ça fait, je sais pas, probablement l'équivalent du produit national d'un pays comme la France pendant toute une année.
Donc, ou 100 dollars par personne sur la Terre. Ou...
Donc ce sont ces capitaux volants qui sont là à des fins de tampon, à des fins de spéculation, à des fins éventuellement d'investissement qui vont servir, mais qui, dans la logique des mouvements, n'est plus du tout donnée par l'utilité sociale qui est faite de cet argent, mais simplement par les perspectives de rendement en taux d'intérêt, donc de profit que cet argent peut rapporter à leurs détenteurs. Ce qui fait que, pour revenir à la question du logement, et ça nous ramène à un problème concret, qu'est-ce qui se passe dans le domaine du logement aujourd'hui ? Eh bien, essentiellement, comme à Genève, par exemple, quand la crise en 1974 s'est déclenchée, il y a eu un afflux de capitaux arabes considérable. Aujourd'hui, l'extraction de pétrole rapporte un petit peu moins de profit, par conséquent, il y a eu une petite diminution de ces sources de capital facile. Mais il se trouve qu'il est remplacé, en tout cas, par une autre source de capital, et qui provient de notre poche cette fois-ci, c'est le capital des caisses de retraite professionnelles, pour lesquelles chaque salarié, le voulant ou ne le voulant pas, ça ne dépend pas de son avis, ça dépend du contrat collectif de travail, cotise mensuellement 1, 10, 12, 15% de son salaire. Il y a là des millions et des milliards d'argent qui sont accumulés d'après des accords entre employeurs et salariés qui sont, je dirais presque, sanctifiés par la loi, puisque la loi suisse prévoit que l'AVS, donc l'assurance vieillesse survivant, n'est qu'une assurance de première nécessité et qu'elle doit être complétée par les assurances professionnelles. Donc il y a des, il y a à la fois des contrats collectifs, mais aussi des lois qui ont été votées par le peuple, qui confirment ce système, et qui fait qu'aujourd'hui, il y a des milliards de capitaux disponibles qui ne peuvent pas être investis dans des activités spéculatives, parce que l'argent des caisses de retraite doit être investi de façon sûre, on ne peut pas prendre des risques avec l'argent des futurs retraités. Et qu'est-ce que font ces caisses de retraite? Elles placent essentiellement leur argent dans l'immobilier.
Alors que ce n'est pas spéculatif.
Alors,
ça fait monter les prix, parce que l'offre est très limitée.
Oui, ça me semble que justement c'est un espèce de paradoxe, c'est que pourquoi est-ce que le logement coûte tellement cher? C'est en partie parce qu'il y a trop d'argent. C'est, en fait, c'est l'argent qui expulse les gens de la ville, qui prend la place. C'est l'argent des syndicats, limite, qui expulse les ouvriers de leur logement.
Le phénomène est général. Aux États-Unis, l'argent qui est géré par les caisses professionnelles, donc les caisses d'assistance sociale, on dit qu'il possède à peu près 20% de l'industrie américaine. Mais je voudrais revenir sur le problème plus en général pour essayer d'expliquer d'où vient tout cet argent dont on parle et dont on se plaint aujourd'hui. En réalité, on vit là une conséquence des années folles, 70 et 80, qui ont vu l'inflation monter à des niveaux extraordinairement élevés partout dans les pays industrialisés. Pour ceux qui n'ont pas vécu cette période, parce que cela fait déjà 10 à 15 ans, l'inflation aux États-Unis touchait les 15%, c'est-à-dire que les prix augmentaient toutes les années de 15%, et pas les salaires. En Allemagne, on est arrivé à 10%, en Italie à 16-20%, en Espagne à 25%, et ainsi de suite. C'était la conséquence d'une politique de l'argent facile de la part d'un certain nombre de banques centrales qui, elles, imprimaient à tout gogo des nouvelles liquidités pour que tout le monde puisse en profiter du côté des investissements, du côté de la consommation. Et parallèlement, on avait lancé ce que disait Jean-Noël, ce système du crédit, lancé, disons, sur une grande échelle, il existait déjà, où tout le monde pouvait acheter, parce que d'abord, il y avait beaucoup de crédits, il n'était pas facile à obtenir, mais il n'était pas bon marché, mais il était facile à obtenir, pardon. Et en même temps, tout le monde achetait parce qu'il fallait faire tourner la machine. Or, aujourd'hui, on paye les conséquences aussi de cette politique qui, elle, a été renversée. Mais puisqu'on renverse une politique brutalement, si on renverse une politique brutalement, on a des gros problèmes. On a essayé de le faire en 80, et il y a eu une récession très brutale aux États-Unis qui s'est repercutée en Europe. Aujourd'hui, on essaie de le faire doucement. C'est-à-dire, aujourd'hui, on essaie de réabsorber cette énorme quantité d'argent qui se balade encore dans la nature par des croissances de liquidités beaucoup plus modérées. Mais cela n'empêche pas que de temps à autre, il faut pomper beaucoup d'argent dans l'économie pour que ça redémarre, autrement ça coule trop vite. Mais il faut bien se dire une chose, aujourd'hui ce trop d'argent qui circule dans la nature, une partie va en spéculation, une partie va dans l'achat de biens, ce qu'on appelle tangibles, c'est-à-dire métaux précieux, immobilier, œuvres d'art, qu'on a payé des fortunes récemment. Mais ça ne va pas durer parce que cela est un symptôme d'un dérèglement de l'économie qui se transforme très souvent en inflation. Donc la plupart des grandes banques centrales d'aujourd'hui ont décidé que ce phénomène doit être maîtrisé. Et c'est le sens des critiques qu'on adresse systématiquement à l'Allemagne, dont qu'on accuse de ne pas vouloir pousser trop l'économie. L'Allemagne a souffert énormément de l'inflation. Et aujourd'hui, l'Allemagne est le prototype d'économie qui est en train de distiller au compte-gouttes son argent frais nouveau dans l'économie pour éviter que l'inflation ne reprenne. Donc le phénomène de la surchauffe des prix, etc., à mon avis, ne va pas durer. D'ailleurs, les prix de Tokyo, par exemple, sont en train de couler. Les prix des plus grandes villes sont en train de couler parce qu'ils ont atteint des niveaux insoutenables, même pour les gens qui ont de l'argent.
Alors là, j'ai l'impression qu'on va aussi un peu vite.
Je ne comprends pas tout. Et puis, j'aimerais d'abord souligner qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'il y a trop d'argent, en fait. Parce que d'un autre côté, on peut dire qu'il n'y a pas assez d'argent pour que les biens produits puisse être écoulé, quoi. C'est-à-dire,
alors, je précise, parce que c'est la question, c'est important.
Ouais, c'est une contradiction, et puis cette contradiction, enfin, derrière cette contradiction, il y a, en fait, qui dispose de cet argent?
C'est ça, le problème.
Qui dispose de cet argent? C'est pas nous. Et l'argent, c'est un levier pour prendre des décisions fondamentales qui devraient être des décisions prises par nous. Elles sont prises par d'autres, quoi. Ça, je pense que...
Le problème de l'argent, je précise parce que c'est quelque chose que j'ai oublié de dire. Le problème, c'est celui de la distribution de l'argent. Alors, par exemple, tu as énormément d'argent dans les places financières des pays industrialisés, Francfort, Zurich, New York, etc. Et tu n'as pas assez d'argent dans les pays du tiers-monde.
Ouais, justement, mais il me semble que là, il y a un problème de fond. Hein.
Attends, ouais. Tu as beaucoup d'argent à un certain niveau institutionnel. Tu n'as pas assez d'argent au niveau plus bas.
Oui, mais justement, c'est ça que je voulais dire avant. Il me semble que c'est un problème beaucoup plus profond qui revient sur le problème des intérêts. Tu disais que le crédit, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et effectivement, c'est critiquer l'intérêt sur l'argent, ce n'est pas nouveau, c'est vieux comme le Moyen-Âge. Mais il me semble, que, je ne sais pas, très simplement, qu'on constate effectivement que cette crise du cycle dont tu parlais, c'est aussi une crise du fait que la part des intérêts et de la dette augmente de façon exponentielle, étouffant l'économie. Et puis, il me semble que c'est dans la nature des choses que les intérêts sur du capital déplace toujours la richesse vers une minorité qui n'a pas assez de besoins pour tout dépenser, donc qui investit. Et ceux qui n'ont que des besoins, eux, évidemment, ils ne touchent jamais des intérêts, ils ne font qu'en payer.
Non, c'est un raccourci un peu rapide, je crois que tu devrais expliquer cette histoire. Tu as parlé d'exponentiel, tu veux dire quoi?
Peut-être il faut commencer plutôt avec ce que j'ai dit après, c'est-à-dire qu'effectivement, il y en a qui ont juste assez d'argent par leur salaire pour acheter la pain, payer le loyer, et puis il y en a qui doivent s'endetter, donc payer des intérêts d'un genre à un autre.
Ouais.
Et puis il y en a qui ont du capital, même beaucoup de capital, qui n'arriveraient jamais à dépenser pour leurs besoins. Tout leur argent, tout leur revenu, alors ils l'investissent, ils réinvestissent, bien sûr, pour un intérêt. Donc, l'argent s'accumule, que ce soit des personnes physiques ou des compagnies, des institutions, c'est la même chose. L'argent a tendance à s'accumuler dans un coin, c'est-à-dire s'accumuler chez les gens qui n'ont pas assez de besoins pour le dépenser, et de déserter les gens, que ce soit des pauvres, du tiers-monde, des salariés, etc., des gens qui, eux, justement, n'en avaient pas assez au départ. Et puis, petit à petit, la machine se grippe, et c'est aussi un petit peu comme ça que je vois la fin d'un cycle, quand tout l'argent s'est accumulé chez les riches, pour simplifier les choses, et ils ne trouvent plus personne qui est capable même de payer des intérêts sur un prêt.
Je précise une chose. Il y a certainement de plus en plus de millionnaires à ce monde, surtout dans les pays qui marchent très très vite comme les États-Unis ou l'Angleterre. Mais un des paradoxes que vient de souligner l'un de vous, je ne sais pas si Jean-Noël ou toi, c'est que la plupart de cet argent qui s'accumule, ce n'est pas les individus qui l'accumulent, ce sont les institutions.
Oui, que ce soit que c'est les individus ou que les institutions, c'est la même chose.
C'est pas la même chose, parce que si c'est un individu, il y a des riches et des nouveaux riches. Chaque cycle entraîne sa déchéance de vieux riches et chaque cycle forme de nouveaux riches. Tandis que là, c'est un phénomène structurel très profond parce que ce sont des institutions qui vont survivre à la crise qui accumulent cet argent. Mmh. Donc cet argent est dépersonnalisé. Ah, oui. Il n'est plus l'argent de qui que ce soit. Il est à tout le monde et à personne. Automatiquement, il devient une puissance à elle seule. C'est-à-dire, on ne sait plus quoi faire parce que, comme disait Jean-Noël tout à l'heure, c'est un argent qui a été légalisé. Donc il est légalement dans les mains d'institutions sur lesquelles on n'a plus aucune responsabilité.
Et en fait, c'est plein d'absurdités cette affaire parce que lorsque les caisses de retraite professionnelles ont été créées, lancées puis développées, c'est-à-dire dans toute la période de l'après-guerre, l'idée de base, c'était pas de pomper de l'argent de la poche des consommateurs ou des travailleurs pour qu'ils aient moins d'argent à disposition. C'était pas du tout l'idée de base. L'idée de base, c'était de leur assurer une retraite où ils puissent vivre avec leurs propres moyens et qu'ils ne dépendent plus de l'aide familiale ou de l'assistance publique. Donc, c'était une logique tout à fait, on pourrait dire sociale. Il fallait que les retraités puissent vivre normalement, décemment, et peut-être même bien. Bon. Cela dit, il va se combiner deux choses maintenant. Avec la crise, les gouvernements ont pris ces mesures d'austérité économique pour effectivement freiner la consommation des ménages pour que l'inflation soit maîtrisée. Et c'était, et ça reste encore, un des objectifs fondamentaux. Mais parallèlement à cet objectif où, alors là, de façon explicite, on cherche à éliminer les hausses salariales tout en maintenant des taux d'imposition élevés, sinon même en les augmentant, et enfin, par différentes méthodes, on arrive à faire que l'argent disponible dans la poche de chacun d'entre nous est moins grand qu'avant. Mais d'un autre côté, cette affaire des caisses de retraite, elle roule maintenant. Elle roule d'elle-même. Parce qu'elle est institutionnalisée, comme on le disait, et que les milliards s'accumulent et s'accumulent et s'accumulent. Ce qui fait que, au fond, c'est l'affaire du démiurge qui se trouve un peu dépassée par ses propres inventions. On a à la fois un manque de moyens de vivre pour la population du globe, pris en tant qu'individu physique, et une disparité qui devient non seulement choquante, mais qui devient violente entre riches et pauvres, et par conséquent dangereuse. Et puis d'un autre côté, on a des institutions qui sont riches à milliards et qui ne savent pas que faire de leurs milliards.
C'est là parce qu'il faut investir pour l'avenir, on ne peut pas dépenser pour ceux qui sont pauvres maintenant. Mais je me sens qu'il y a eu une controverse au début, quand on a institué le deuxième pilier, ou je ne sais pas quoi, où les gens disaient justement, il ne faut pas faire de la prévoyance, il faut faire de la solidarité. C'est-à-dire qu'il faudrait que la classe ouvrière, maintenant, paye les retraites de ceux qui sont à la retraite maintenant, et puis en comptant sur le fait que dans 20 ans, quand eux ils seront à la retraite, quelqu'un payera leur retraite à eux. Oui, et pas que chacun il investisse et qui donc accumule cette énorme somme d'argent pour que dans 20 ans, ils puissent payer leur propre retraite.
Tu as tout à fait raison. Et ça a été un débat qui est mal tombé du point de vue du temps, enfin du point de vue de l'époque à laquelle ce débat eut lieu, c'est-à-dire au milieu des années 70. C'était en plein milieu du déclenchement de la crise pétrolière. Et ce débat est opposé, comme tu dis, ceux qui voulaient le système de la capitalisation, où tes cotisations sont épargnées pour ta propre retraite dans 20 ou 30 ans.
C'était de l'épargne forcée.
Et puis l'autre voie possible qui était celui de la répartition, où ta cotisation d'aujourd'hui sert à payer les retraites des vieux d'aujourd'hui. Et en simplifiant, le débat a très nettement opposé la gauche et la droite. La gauche, ou en tout cas certaines composantes de la gauche, disaient « il nous faut un système de répartition pour... » Le raisonnement n'était pas tellement économique, le raisonnement était plutôt social, par justice sociale. « Il nous faut un système de répartition parce que c'est un système de solidarité sociale. » Et la droite, elle disait publiquement... Il nous faut un système de capitalisation parce que c'est plus sûr, parce que finalement ça coûtera moins cher aux épargnants.
Qu'est-ce que c'est capitalisation peut-être
La capitalisation, c'est quand ta cotisation est mise sur un compte qui t'est réservé pour toi quand tu auras la retraite dans 20 ou 30 ans.
C'est ça, en fait, la droite s'intéressait justement à avoir des capitaux, à investir.
Voilà, parce que ce qu'elle ne disait pas, la droite, c'est que le système de capitalisation lui donnait accès à une source de capital absolument faramineuse. Or, on avait vu ça dans les dernières émissions.
C'est ce qui s'est passé au Japon.
C'est ce qui s'est passé au Japon, c'est ce qui s'est passé dans tous les pays. À cette époque de crise, il fallait avoir beaucoup de capital du point de vue du capitaliste, donc du détenteur de moyens de production, pour renouveler des investissements, des équipements, des modes de production qui étaient devenus obsolètes. Il fallait un capital gigantesque que le capital ou les capitalistes pensaient trouver de manière assez agréable, il faut le dire, dans les caisses de retraite. Donc c'est vrai qu'il y avait là un débat politique, mais le débat politique n'a jamais été très loin parce que les gens étaient tellement obnubilés par cette crise qui leur tombait vraiment sur la tête, alors que pendant 30 ans, ça avait été la prospérité affolante qu'on a connue, que le débat était escamoté, en définitive.
Bon, en fait, on s'aperçoit maintenant qu'on a lancé ce thème de l'argent et qu'on a chacun essayé d'évoquer un certain nombre de symptômes. Et c'est très bien, je pense que c'est nécessaire qu'on remarque qu'il y a un certain nombre de mauvais fonctionnements de l'argent, mais j'ai pas l'impression qu'on est arrivé assez au cœur de la question pour qu'on puisse dire « Tiens, j'ai compris quelque chose, je crois qu'il va falloir qu'on le reprenne. »
Je pense qu'il faudra revenir dessus, d'autant plus qu'au début, on a annoncé qu'on voulait lier ce problème du mauvais fonctionnement de l'argent avec les problèmes de l'écologie, et ça, on n'a pas réussi à l'aborder du tout, donc ce sera pour la prochaine fois. Peut-être en deux mots, juste pour annoncer un peu de quoi on va parler, pour moi, en tout cas, je le vois comme ça, c'est le mécanisme même de l'argent, c'est-à-dire que le fait que tout investissement doit finir par produire un capital agrandi, le capitaliste, s'il ne veut pas faire banqueroute, il doit toucher un intérêt sur son capital, il doit faire un bénéfice, et que ce bénéfice et ce capital qu'il a retrouvé, il doit être de nouveau investi, ça implique qu'il n'y a dans ce système-là que deux possibilités, soit la croissance, soit la ruine. Et donc une économie en équilibre est impossible. D'ailleurs, quand on parle dans les journaux, etc., croissance et prospérité sont quasiment des synonymes hein, dans notre langage économique. Or, pour des raisons écologiques, je pense qu'il faut d'urgence trouver un système d'échange économique équilibré, c'est-à-dire qui ne recherche pas la croissance pour elle-même, indépendamment des besoins réels, de simplement de par la mécanique aveugle du rendement sur l'argent. Donc ça, c'est un petit peu, en deux mots, dire ma thèse, ce que j'aimerais discuter la prochaine fois. Alors, nous nous retrouvons pour la quatrième fois pour cette discussion un peu informelle autour de la crise. Nous avons commencer donc avec une discussion du phénomène du chômage très massif qui semble devenu endémique dans nos sociétés depuis une dizaine d'années. On a parlé ensuite du problème
de la déréglementation.
De la déréglementation, exactement. Donc, en quelques mots, la solution que propose le patronat pour cette crise. L'austérité, la compétitivité, la déréglementation au niveau syndical, social, etc. Et la dernière fois, on a voulu aborder la question de l'argent et de l'écologie. En fait, on a surtout parlé de l'argent. On a montré quelques-uns des vices, des fonctionnements vicieux de l'argent, où notamment on a pu voir que il y avait trop d'argent dans certains endroits, pas assez dans d'autres, et qu'à certains moments, l'argent pouvait carrément travailler à fin contraire socialement, c'est-à-dire quand on a vu, par exemple, que c'était le fait qu'il y avait trop d'argent en Suisse, à investir en Suisse, notamment dans l'immobilier, qui faisait que le prix de la terre montait de façon complètement déraisonnable, sans lien avec les vrais besoins ou les vrais coûts du logement, simplement parce qu'il y en avait trop. Et on voulait donc aujourd'hui aborder pour de vrai, cette fois-ci, cette question de l'argent et la croissance, l'argent et l'écologie.
Cette approche de l'écologie à partir des problèmes d'argent ne vient pas par hasard, parce que pour nous, notre volonté était d'éviter de faire une complainte sur l'écologie, comme on en entend trop souvent lorsqu'on déplore les dégâts causés à la nature, à l'environnement, chose qu'il est facile de faire parce que ces dégâts sont énormes, qu'ils sont très visibles et qu'ils touchent chacun de nous. Mais si on en reste à la description attristé d'un état de fait qui devient de plus en plus insupportable, on ne remplit pas le but qu'on voudrait assigner à ces quelques émissions, parce que ces complaintes écologiques renforcent le pessimisme de chacun d'entre nous par le fait que ces dégâts, cette destruction systématique de l'environnement apparaît comme quelque chose qui est insurmontable à ceux qui voudraient faire autrement. Insurmontable parce que c'est la loi de l'économie moderne ou du développement capitaliste et que ce sont des choses qui nous échappent largement et qui planent au-dessus de nos têtes. Alors précisément, le fait de discuter, d'avoir discuté la fois dernière d'argent, nous permet peut-être d'avoir une vision un petit peu différente de la crise ou des manifestations écologiques de la crise, parce que nous introduisons précisément cette dimension de l'argent, donc de la logique du système dans lequel nous vivons. Alors cette logique, on va pas reprendre ce qu'on a dit la fois dernière, mais on va peut-être juste reprendre ce qui est utile. Cette logique fait que l'argent existe, il est là, il a été multiplié et démultiplié par tous les instruments de crédit qui ont été affinés, développés pendant ces 40 dernières années, et il est tellement omniprésent que il n'est plus tout à fait lié à nos besoins et aux activités productives nécessaires à satisfaire nos besoins. Il y a tellement d'argent qu'il est devenu déconnecté de l'activité socialement utile et qu'il peut être investi n'importe où, là où son rendement sera suffisant pour que le capitaliste, son détenteur, soit d'accord de l'investir. La seule logique ici, c'est celle du profit. Alors donnons un petit exemple. Le profit d'un investissement actuel dans des énergies douces ou renouvelables est, au dire de tous les experts, et probablement ils ont raison, cette rentabilité est inférieure à celle qu'on a pu constater dans les investissements en vue de promouvoir l'énergie nucléaire. Ce qui fait que tout bon capitaliste qui se respecte aura investi dans le nucléaire parce que simplement ses perspectives de profit ou de rendement de son capital seront supérieures. L'industriel, lui, qui fait de l'énergie nucléaire, n'est pas forcément ipso facto opposé à développer des énergies douces. Simplement, il est prisonnier de la même logique. Il a investi des capitaux gigantesques dans le nucléaire qu'il est exclu de rentabiliser à court terme. Il faut 5 ans, 10 ans, 20 ans pour rentabiliser les milliards investis dans le nucléaire. Cela étant, il ne faudrait pas en déduire que tous les producteurs de nucléaire sont d'affreux destructeurs de la nature et ne pensent pas, par exemple, aux énergies douces ou renouvelables. Simplement, ils sont liés par un certain nombre de contraintes qui sont telles que y renoncer correspondrait à leur faillite. Alors, ceci introduit une nouvelle dimension qui est que lorsqu'il y a conflit entre utilité sociale et rentabilité du capital, l'utilité sociale en prend un méchant coup, visiblement. Ce qui veut dire que les désirs du consommateur ne correspondent pas toujours, ni même pas forcément, aux désirs ou aux préférences du producteur. Or, on nous a toujours dit et répété et martelé même que l'économie capitaliste, ou l'économie bourgeoise, ou appelons-la du terme qu'on leur voudra, était essentiellement au service du consommateur, que le consommateur était le roi de cette économie et que c'était ses préférences qui dirigeaient la production qui était censée la satisfaire. Or, on voit que c'est une prétention qui est très largement abusive puisque les nécessités de la rentabilisation du capital et de son investissement font que il peut très bien, et il se produit en permanence, des conflits entre les intérêts des producteurs et ceux des consommateurs. Et que ces conflits peuvent atteindre des proportions gigantesques comme celles que l'on constate aujourd'hui à propos de l'environnement. Donc il peut y avoir fluctuation dans ces conflits, mais ce dont il faut se souvenir, c'est que la force du capital, d'une part, et des intérêts mis en jeu dans les circuits productifs, d'autre part, est, en tout cas, et de façon visible aujourd'hui, prépondérante par rapport à la force que les consommateurs peuvent représenter. Ce qui fait que, et on en revient au début de ce que je disais, la complainte attristée sur l'état dégradant de l'environnement et de la nature d'aujourd'hui n'est qu'un reflet de cette impuissance du consommateur à faire valoir ses droits, ses intérêts et ses priorités.
Et que justement, il faudrait être capable d'attaquer le mal à la racine. Disons, une vue simplement écologiste, abstraitement, risquerait de simplement vouloir une société capitaliste propre, et puis que tout ce qu'on a déjà dû payer à polluer l'environnement, on devra le payer maintenant pour le nettoyer, dans la mesure où ça va devenir rentable de nettoyer ce qui a été sali.
Oui, parce que justement, je voulais te reprendre d'ailleurs sur une chose que tu as dit, c'est peut-être le moment de le faire. Tu as dit au début de ton explication qu'il y a tellement d'argent maintenant qu'il sait dissocier des besoins. Et puis, j'ai tout de suite pensé aux pyramides. Je pense que depuis fort longtemps, l'argent, même quand il n'y en avait pas beaucoup de surplus, il était déjà tout de suite dissocié des besoins sociaux en général. C'est-à-dire, c'était les pharaons, par exemple, qui s'accaparaient ce qu'il y avait de trop dans la société égyptienne et construisaient les pyramides avec, que ce soit là le besoin social prédominant ou pas. Et cela, justement, m'amène à cette idée que, justement, que je crois que la plupart des verts, des écologistes ne voient pas, c'est qu'il y a un ennemi caché. Et pour moi, cet ennemi caché, c'est effectivement l'argent et le système de l'intérêt. Parce que, fatalement, si l'argent rapporte un intérêt, il y a deux choses qui se passent. D'abord, l'intérêt, c'est-à-dire le surplus social créé à un certain moment par le travail de toute la société, cet argent va aller vers le détenteur du capital, c'est-à-dire il va s'accumuler chez des gens qui n'ont pas forcément les besoins sociaux intéressants. C'est-à-dire qu'ils vont construire des cadillacs polluantes ou des pyramides ou Dieu sait quoi avec, mais ce n'est pas forcément la meilleure utilisation du point de vue de la société dans son ensemble. Et puis deuxièmement, et puis encore plus fondamentalement, et puis je crois que c'est là vraiment pour moi le point crucial, si on a un système où la production sociale, quand il est réussi, produit toujours une plus grande somme d'argent, un plus grand capital qui doit être réinvesti, ça veut dire que forcément, la production doit croître. Et puis ça, les écologistes nous ont assez dit, on ne pourra pas continuer à faire croître notre économie, croître notre industrie indéfiniment. On arrive vraiment aux limites physiques de la croissance possible sur ce bas monde.
Donc, il faut bien voir en face ce fait qu'il y a une croissance forcée qui est donnée par le système même du fonctionnement du capital. Et que ça, il faut le voir en face, parce que si on essaie que de se battre contre les conséquences négatives sur l'environnement, alors soit on va aboutir à une pression sur l'État pour qu'il édite de plus en plus de règlements, mais qui vont être que, je sais pas, c'est comme un médecin qui se bat contre les symptômes, on s'est limité ci, ça, mais il faut attaquer le mal, il y a un bien moment, il faut attaquer le mal à la racine. Soit, comme je disais avant, il faut aussi penser que on va pousser simplement le système à faire ça va devenir rentable de nettoyer ce qui a été sali.
Oui, ça va être la solution qui mettra d'accord les syndicats et les patrons, c'est que d'abord on salit, puis après on nettoie, voilà. Comme ça il y a des débouchés pour le capital, il y a du travail pour tout le monde.
Il y a aussi des problèmes d'ordre structurel qui sont à l'origine de ce phénomène de pollution de l'environnement. En particulier, un problème de pollution est fondamentalement lié aux technologies qu'on utilise. Par exemple, jusqu'à maintenant, on a utilisé des technologies qui consomment une énorme quantité d'énergie. Automatiquement, pour chercher l'énergie, il faut creuser, il faut transformer, il faut produire de plus en plus de déchets. Donc aujourd'hui, par exemple, les nouvelles technologies sont tout sauf « energy intensive », comme on dit, c'est-à-dire elles sont tout sauf consommatrices d'énergie. Dans la plupart des cas, on passe à la miniaturisation. Et en passant à la miniaturisation des équipements, des usines, la rationalisation des manières de procéder, aussi on élimine un gâchis énorme d'énergie. Une deuxième raison, c'est aussi que, suivant la mode anglo-saxonne, on produit selon des besoins contingents. Donc on fonce tout droit dans une direction, on accumule une énorme quantité de biens ou de services pour ce besoin spécifique dans cette direction, sans contrôler ce qui se passe autour. Et puisque le marché est libre de faire ce qu'il veut, tout le monde fait ce qu'il veut à un moment donné de son cycle de production. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a plein d'un certain produit. Le produit passe la mode de ce produit passe, on repart à un autre produit et on laisse derrière les dégâts. Ça, c'est un deuxième système. Donc, à la limite, il faudrait peut-être concevoir un programme contre la pollution de l'environnement aussi comme étant intégré dans un programme économique général ou un programme de société, pas seulement un programme de dégâts possibles qu'on fait à l'environnement et c'est fini.
Ce que tu disais sur le fait qu'on a passé ou qu'on est en train de passer progressivement de systèmes de production qui utilisaient beaucoup d'énergie à des nouvelles technologies qui en utilisent moins est très illustratif de ce fait que la logique de l'argent pénètre ces détails industriels et techniques. Dans ce sens que, pendant tout le 19e siècle, ou même le 20e siècle, jusque dans les années 1970, les sources d'énergie étaient relativement bon marché, les sources d'énergie classiques. Le charbon, le pétrole, etc., étaient des énergies relativement bon marché et relativement, d'après les vues qu'on en avait à l'époque, inépuisables. Donc on tapait dans le tas, gaiement. Et puis tout à coup est arrivée cette notion que il y avait épuisement progressif ressources naturelles et qu'il fallait un petit peu réorienter la chose. En même temps, les détenteurs de ces ressources naturelles ont augmenté leur prix de manière considérable, ce qui rendait leur utilisation moins avantageuse et ce qui a poussé, ça a contribué à pousser la recherche technique et scientifique vers des sources d'énergie qui sont beaucoup moins gourmandes. Et il se trouve que cet investissement aujourd'hui commence à rendre, puisque les microprocesseurs, les petits circuits imprimés, etc., deviennent très bon marché à la production et rendent des services dans des sphères de la production toutes très très larges et très diversifiées. Donc il y a bien cette relation entre le fait que l'argent s'investit là où sa perspective de rentabilité est bonne, et pas du tout là où le besoin social est décelé, justifié et manifesté. Il y a là un divorce qui ne date pas d'aujourd'hui, comme Olivier le disait tout à l'heure, puisque la construction des pyramides illustrait bien dans l'Égypte d'alors ce divorce, mais qu'il perdure, ce divorce, et il existe encore aujourd'hui, et il faut bien raisonner là-dessus.
Il faut dire aussi, ce que tu dis, c'est vrai, il faut dire aussi toutefois que ces nouvelles technologies ne sont pas tout à fait innocentes, parce que si on pense à la fameuse implantation industrielle de Silicon Valley en Californie, elle est en train de passer un des pires moments de son histoire, parce que les nouvelles technologies sont extraordinairement polluantes. Elles sont constituées à base d'une quantité assez forte d'acides et de produits chimiques extrêmement corrosifs dont on a des problèmes, avec lesquels on a des problèmes. Et donc, à la limite, la nouvelle technologie n'est pas une panacée en soi, elle est une panacée dans la mesure où, globalement, elle réduit ce gâchis d'énergie auquel on était habitué. Mais il y a peut-être un autre phénomène, et comme dans beaucoup de domaines, la prévention, c'est beaucoup mieux que
les soins.
Et alors, ce que disait Nicolas tout à l'heure, c'est gentil de dire que maintenant, la pollution de l'environnement donne des nouveaux boulots. Mais ça peut être aussi un alibi pour dire aux gens pollués, parce que de toute manière, on mettra une contre-équipe qui va nettoyer à côté. Donc, on peut continuer comme avant. Le problème, donc, c'est celui de la prévention. Et un des moyens de prévenir ce genre de gâchis des ressources, c'est de recréer ce qui était autrefois une qualité fondamentale des produits, par exemple, la durabilité. La société de masse produit pour la masse et pour la mode. La mode change, on balance un produit, on en refait un autre, justement, hors de contexte, c'est-à-dire sans savoir quel est son impact sur l'environnement, pas seulement physique, mais aussi social, aussi psychologique, parce que la pollution, c'est aussi un phénomène psychologique, c'est-à-dire on jette parce qu'on sait tout de suite qu'il y a quelque chose d'autre qui remplacera l'objet qu'on jette. Mais autrefois, on rendait les bouteilles, on n'utilisait pas le plastique. Autrefois, on avait des voitures qui duraient 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, on recommence. Vous avez des Mercedes qui durent 500 000 km. C'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Autrefois, on avait des maisons qui tenaient debout des siècles. Aujourd'hui, on a des maisons qui tiennent debout 25 ans. Au bout de 25 ans, les maisons des années 60 sont en train d'être refaites. Et ça, c'est la pollution tout court.
Mais ça, c'est assez logique si on se rappelle que depuis deux générations, en tout cas, il y a la nécessité de nouveau financière d'accroître la vitesse de circulation du capital. Ce qui fait que le producteur, dans la plupart des secteurs industriels, et tu as donné l'exemple de la voiture, qui est un exemple frappant et probablement le plus illustratif, la plupart des producteurs introduisent dans leur modalité de fabrication des structures de vieillissement incorporé, de telle sorte que leurs produits ne durent pas trop longtemps. Et de telle sorte que le consommateur soit obligé de le jeter. En fait, c'est pas que le consommateur choisisse de le jeter parce que la mode a changé et parce qu'il a envie de s'acheter une nouvelle carrosserie. C'est pas du tout ça. Ça peut intervenir, mais c'est un petit pourcentage de la décision. Le gros de la décision, c'est que l'objet acheté est usé et n'est pas réparable. Ou s'il est réparable, il est réparable à un tel coût qu'il est encore meilleur marché de racheter un nouveau produit. C'est le cas des rasoirs aujourd'hui, c'est le cas de toute une série de choses. Enfin, on pourrait multiplier les exemples. Mais donc, il y a là cette logique qu'on veut produire, pour l'instant, des produits qui ne durent pas trop pour obliger les gens à renouveler leur stock de produits et donc pour faire circuler le capital beaucoup plus rapidement qu'avant.
C'est là où il y a un problème fondamental du côté du consommateur. Un consommateur averti peut, à la limite, imposer aux fabricants que ces produits durent plus longtemps qu'ils ne sont habitués à faire.
Mais là, justement, quand on dit imposer aux fabricants, j'étais en train de me dire, par le choix qu'il fait, d'accord, mais est-ce que ça va être suffisant? Et puis là, je vois déjà les auditeurs de Radio Zone qui se disent... ils sont pour une intervention étatique, je ne sais pas quoi, enfin, c'est un discours. Et puis, justement, je ne compte pas forcément, mais le truc de fond que je vois là, c'est que quand on parle de la durabilité des produits, par exemple, le produit dont ce sujet que tu viens d'aborder, on voit qu'il faudrait réorienter la production dans ce sens, c'est l'évidence même. Et ce n'est pas l'argent comme il fonctionne maintenant, en tout cas, qui va le faire, parce que l'argent comme il fonctionne maintenant, le marché comme il fonctionne maintenant, en fait, ne présente pas aux consommateurs le vrai coût des produits. C'est-à-dire parce qu'il ne présente pas avec aussi la facture de la pollution qu'il va créer en jetant sa voiture après quelques années, en balançant les pneus dans la rivière, etc. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il me semble, par rapport à la réglementation, hein, que beaucoup de gens, ils ont peur de ça, je veux dire, on voit partout, est-ce qu'on va imposer un impôt supplémentaire sur la benzine, le principe soi-disant du pollueur-payeur, ou est-ce qu'on va interdire ça, ou on va seulement permettre ça? Beaucoup de gens en ont peur parce qu'ils disent que ça va être l'État qui va être encore plus important, l'État écolo qui va intervenir partout. Et puis il me semble que justement, il faut des chercher justement dans l'argent la solution, dans le sens que moi je voudrais bien que le marché puisse déterminer, le libre jeu du marché puisse déterminer beaucoup plus de choses, mais qu'il les détermine de façon juste. C'est-à-dire actuellement, comme fonctionne l'argent, il n'est pas à un indicateur des vrais coûts des choses. Donc, forcément, il faudra intervenir constamment et de plus en plus avec des règlements de ce genre-là.
Là, vraiment, je ne sais pas si tu défends un point de vue dont tu es convaincu ou alors si c'est ta réaction instinctive en ayant été éduqué dans ce pays. Mais fantastique, c'est fantastique d'entendre tout de suite qu'on parle de réglementation de l'État. Mais pourquoi l'État ? Pourquoi toujours l'État ? Il n'y a pas que l'État, il y a les associations de consommateurs, il y a les associations écologiques. T'as un pays comme l'Italie où l'État est présent partout, jour et nuit, qui n'a jamais vu autant d'associations écologiques comme nulle part ailleurs. Donc le problème n'est pas l'État, l'État. Moi, je suis contre l'État avec toutes mes forces, parce que l'État, tel qu'il est maintenant, il va nous conduire à la dictature. Donc c'est pas ça que j'invoque comme... Mais au fond, c'est un problème, une fois de plus, d'éducation. Et une fois de plus, c'est un problème d'éducation au niveau scolaire, au niveau primaire, au niveau des écoles secondaires, etc. D'habituer les gens à calculer la juste valeur d'un produit, non pas parce qu'il est nouveau, il est brillant, il est colorié, genre Benetton, mais parce qu'il est durable, il est serviable, il est utilisable plusieurs fois, etc. Et ce phénomène doit se répercuter à tous les niveaux. Aujourd'hui, tu dis justement une chose, quand on détruit quelque chose parce qu'on l'a pollué, la reconstitution de ce quelque chose, donc la réparation, devient un ajout au soi-disant produit national brut. C'est-à-dire, un dégât devient une richesse supplémentaire dans la comptabilité nationale. Donc, la richesse totale est faite aujourd'hui toujours de plus, et jamais de plus ou de moins. C'est-à-dire, on détruit un site, on détruit un lac, et quand on va nettoyer le lac, le travail qui a été provoqué par la destruction du lac, dans la comptabilité, à la fin de l'année, on dira, on a fait l'usine qui a pollué le lac, on a remis en état le lac, c'est un plus aussi. Non, c'est un moins. Donc il faudra changer à tous les niveaux la conception d'utilité publique. Si on a détruit le lac, c'est une richesse qui s'en va, c'est pas une richesse qu'on ajoute.
Alors justement, là, tu étais tout à fait l'exemple, je suis tout à fait d'accord avec toi, pour prendre aussi l'exemple, par exemple, des gamins qui par milliers tombent malades à cause de la pollution dans nos villes, ça aussi, ça s'ajoute au produit national brut. C'est un plus pour la Suisse, le fait qu'un tant de milliards ont été dépensés sur ces gamins dans les hôpitaux, etc. Et puis là, justement, on aborde la question du fonctionnement de l'argent, parce qu'il faudrait une façon au moins de comptabiliser ce qui se passe au niveau social, où on voit que ça, c'est pas un plus, c'est un moins.
Attends, c'est quoi ? Comment on dit merde en la merde de vache ?
Il y a cet aspect, bien sûr, des dégâts qui sont considérés positivement dans la comptabilité économique moderne, qui est un non-sens. Mais je crois qu'il y a, plus important que ça. Il y a le fait que on est, le voulant ou non, contraint presque par la logique économique et la logique de l'argent à détruire. Prenez le cas de l'agriculture. Nos agriculteurs sont pas du tout ni plus bêtes, ni plus mauvais, ni plus méchants que les autres. Et quand je dis nos agriculteurs, je parle des agriculteurs de tous les pays qui, en général, sont attachés à leur sol et sont attachés à des valeurs tout à fait millénaires de conservation du sol, de l'entretien de leur patrimoine, etc. Or, que se passe-t-il ? C'est que si vous voulez produire en respectant ce patrimoine, vous n'arrivez plus à être compétitif et à rentabiliser les investissements que vous avez dû faire. Or, avec la mécanisation, d'une part, mais aussi avec les techniques modernes d'agriculture, vous êtes obligé d'investir en tant que producteur agricole. Vous devez investir. Donc, vous devez emprunter. Donc, vous avez des charges d'intérêt et d'amortissement de la dette que vous devez sortir toutes les années. Et vous êtes dès lors, pour certains en tout cas, pieds et poings liés aux mains de ceux qui vous vendent des engrais plus performants, des nourritures qui vont vous permettre d'engraisser votre bétail plus rapidement, Et toutes ces techniques qui font que vous pouvez produire plus et plus vite, donc vendre et réaliser par votre vente un profit, ou du moins un revenu plus immédiat qui va vous permettre de rembourser vos dettes. Mais c'est un cercle vicieux parce que pour produire plus, il faut dépenser beaucoup plus justement en achat d'engrais, en achat de fertilisants, en achat de produits pour l'engraissement du bétail ou de la volaille, etc. Donc, les agriculteurs d'aujourd'hui en arrivent à douter de cette espèce de logique du cercle vicieux où, pour gagner plus, il faut dépenser plus. Et quand on fait le bilan à la fin de l'année, on s'aperçoit que finalement la marge a pu éventuellement se rétrécir et qu'il y a quelque part quelque chose qu'il faut couper dans cette logique parce que la dégradation du sol et de l'environnement le veut simplement. Et je crois qu'aujourd'hui, l'agriculteur est arrivé à la porte de ce raisonnement-là. L'environnement ne permet plus de donner la main dans ce cercle vicieux de investissement, rentabilité, revenu, pour payer des dettes, en fait. Donc pour payer le capitaliste.
Mais là, je voulais juste dire quelque chose que je voulais dire déjà avant foutu. Tu parlais de l'éducation. Et puis là, il me semble que dans l'exemple que tu donnes de l'agriculture, comme dans d'autres exemples industriels qu'on pourrait prendre, l'éducation du consommateur ne va pas forcément suffire parce que, l'histoire de plan d'obsolescence, hein, donc le produire des produits qui se foutent en l'air tout seul relativement rapidement, c'est une chose qui est connue depuis les années 50 aux États-Unis, il y a un best-seller en 55 là-dessus, dans lequel il détaillait comment les grands trusts, General Electric et les autres, se sont mis d'accord pour dire maintenant les ampoules ils vont durer la moitié d'avant. Et depuis, ils durent la moitié d'avant parce qu'ils ont le monopole. Et puis par rapport aux producteurs de grains et de phosphates, etc., si l'agriculture biologique prenait un petit essor, on verrait des interventions très directes du pouvoir économique à ce niveau-là, j'en suis sûr.
Pour l'éducation, de toute façon, ça c'est un énorme sujet qu'il faudra reprendre à une autre émission parce qu'on ne peut pas le massacrer comme ça en 15 secondes. Il faudra rediscuter du rôle de l'éducation dans tout ce processus-là.
Certainement, parce que par exemple, un détail très technique, aujourd'hui, depuis 15 ans, 20 ans, on a développé énormément la culture du soya. Le soya, c'est une protéine végétale naturelle, à très haute teneur de protéines d'ailleurs. Bon, le soya a été presque totalement utilisé pour l'alimentation du bétail, lequel est une protéine aussi naturelle, mais à une échelle supérieure du cycle biologique. Donc ça demande énormément de travail pour produire des protéines animales, alors que la protéine végétale soya est disponible. Alors, que ce soit le hasard, que ce soit dirigé, aujourd'hui, on voit de plus en plus de soya dans les magasins. Et c'est peut-être déjà une voie d'issue, c'est-à-dire au lieu de consommer énormément de protéines végétales pour produire des protéines animales qui doivent alimenter une population toujours de plus en plus affamée de viande, on commence à diriger, ou les gens commencent à se diriger vers les protéines végétales directement, c'est-à-dire avec beaucoup moins de gâchis d'énergie, hein, par exemple. Mais ce que disait Jean-Noël, c'est quelque chose d'extraordinairement intéressant, parce qu'en fait, je peux donner un exemple presque tragicomique, presque